Radio Okapi.
La présentation du journal, Daniel Tarbizoni.
Au sommaire de cette édition, le ministre d'État en charge des hydrocarbures a lancé hier à Goma les travaux d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu et de la production de l'électricité par une entreprise tunisienne. C'est un projet de 30 ans réparti en 3 phases avec plusieurs retombées positives pour la population selon le ministre. Au moins 500 élèves de l'école primaire Malela dans le territoire de Kailo au Maniema étudient dans des conditions difficiles. Les élèves de 8 classes suivent les cours assis à même le sol sous un seul hangar exposé à toutes sortes d'intempéries. La MONUSCO déploie ses drones et ses patrouilles nocturnes pour traquer les EDF dans la région de Kissima. Elle a ouvert une base à Kilia dans le groupement Malambo et bientôt une autre à Mutuanga, le chef-lieu du secteur de Rwenzori, pour protéger les civils face à l'activisme des EDF. L'invité de ce journal, le major Ali Modi Gambo, chargé de l'information publique de la brigade d'intervention de la MONUSCO, nous en parle avant la fin de cette édition. Lancement officiel hier lundi à Goma des travaux du comité de suivi de l'exécution du projet de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma en vue de la production de l'électricité par la société tunisienne Kivu Power. Le ministre d'État en charge des hydrocarbures a lancé ces travaux au cours d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs autorités dont l'ambassadeur de la Tunisie en RDC, le ministre congolais de la formation professionnelle, les gouverneurs du nord et du sud Kivu. Ce projet d'une durée de 30 ans s'exécutera sur 3 phases. Le ministre Rubens Mikindo parle de plusieurs retombées de ce projet au bénéfice de la population. Denise Lukeso.
L'exploitation du gaz méthane dans les blocs Goma va non seulement créer des emplois, elle va également lutter contre la déforestation par la diminution sensible de l'utilisation du charbon des bois en fournissant à la population une énergie propre. L'autre retombée est la formation des jeunes qui seront bénéficiaires. La production de l'électricité à base du gaz méthane va également booster l'économie de la province et du pays. Les ministres Rubens et Mikindo donnent les 3 phases d'exécution de ces projets et leur périodicité.
La deuxième phase, celle d'exécution des travaux par la pose de la plateforme et l'installation des équipements destinés à l'extraction, au traitement, au stockage du gaz méthane, la construction de la centrale thermique à gaz pour une durée de 24 ans. Et la troisième phase qui portera sur l'exploitation proprement dite du gaz méthane et de la centrale thermique à gaz pour la production effective et la commercialisation de l'électricité.
Pour les directeurs de la société tunisienne Kivu Power, plusieurs défis attendent ces projets. Cette exploitation sera combinée avec la construction d'un centre de formation pour former la main-d'œuvre locale qualifiée, a annoncé de son côté le ministre congolais de la formation professionnelle. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Accaparement des terres et défis du foncier en RDC, c'est le thème autour duquel le Centre d'études pour l'action sociale consacre 3 jours de réflexion depuis hier lundi. C'est dans le cadre de l'édition 2020 des journées sociales du CEPAS, dont les travaux ont été plusieurs fois reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Pour le directeur du CEPAS, la RDC a un patrimoine foncier énorme qui nécessite une anticipation des actions pour une utilisation judicieuse et donc à noter le père Alain Zadi, les terres congolaises doivent être mieux gérées pour contribuer concrètement au développement du pays. Reportage Jean-Désiré Kanyama.
La politique de l'accaparement de terres est aujourd'hui une question brûlante, aussi bien dans le monde qu'en RDC, reconnaît le directeur du CEPAS, père Alain Zadi.
La question foncière est une question cruciale dans beaucoup de pays du monde. Et dès maintenant, il faut analyser les problèmes que nous connaissons et voir comment on peut s'organiser pour mieux gérer notre patrimoine foncier.
Seront passées au peigne fin beaucoup de questions qui nécessitent d'être documentées, notamment celle de Bukanga Lonzo, père Rigobert Minani, chargé du secteur de recherche et d'animation sociopolitique.
Il y a beaucoup de débats dans les milieux publics, par exemple sur la question de Bukangalonzo. Un cas parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce qu'on peut faire l'évaluation?
Un état des lieux en rapport avec les mines et les forêts sera aussi fait.
Les compagnies minières, les entreprises forestières, les espaces qu'ils prennent, ça appartient à qui? Qui souffre autour de cette question?
Au terme de ces assises de 3 jours, des actions concrètes seront entreprises.
Nous pouvons alors, ensemble avec les autres organisations de la société civile, voir comment nous pouvons tirer la sonnette d'alarme.
En définitive, il sera aussi question de sensibiliser les chercheurs, les politiques et surtout les populations.
Un plaidoyer, une sensibilisation au niveau de la population qui sache comment on manœuvre dans ce genre de situation.
Ces journées sont organisées en collaboration avec l'Université Loyola du Congo et les réseaux ecclésiales du bassin du Congo.
En province du Maniema, environ 500 élèves de l'école primaire Malila, dont la sous-division de l'EPST Kailo 1, étudient dans les conditions difficiles. Cette école conventionnée protestante de la 7e communauté des églises de Grâce au Congo manque des locaux adéquats et les élèves de toutes les 8 salles de classe suivent les cours assis à même le sol, sous un seul hangar exposé à toutes sortes d'intempéries. Le directeur de cette école demande aux personnes de bonne volonté, au gouvernement et aux élus du territoire de Kailo de s'impliquer pour améliorer les conditions d'apprentissage de ces enfants de la RDC. Missinga Suedi Florent au téléphone de Florence Kizalunga.
Ici chez nous, malheureusement, les élèves étudient dans de très mauvaises conditions. D'abord, les locaux, les bâtiments sont empilés, il n'y a pas de bancs pupitres. Les élèves restent par terre. Après les heures de cours, vous allez les voir, ils sont tous sales, puisqu'ils sont par terre. Ils écrivent mal. En somme, il y a des enseignants compétents, mais malgré les conditions de vie, ils sont là pour prendre sérieusement la matière. Mais les élèves difficilement s'adaptent. Les conditions dans lesquelles les élèves étudient, vous voyez vous-même, sont très mauvaises. C'est très honteux d'avoir une école pareille dans le chef-lieu du secteur, c'est malheureux. Le message que j'aurais à communiquer est celui de songer à bâtir l'école primaire de Malela. Et je lance un appel aux autorités de pouvoir songer à la construction de l'EPE Malela. Et j'aimerais qu'ils songent aussi à chercher quelques organismes pour qu'ils viennent servir les milliers et surtout à la construction de l'EPE Malela.
Le centre de santé Mamouadi Tekemena, situé au quartier Kamaï dans la ville de Kananga, a été saccagé samedi en fin d'après-midi à la suite de la mort d'une dame décédée après une intervention chirurgicale. L'incident a débuté lorsque les membres de la famille de la disparue se sont présentés au centre de santé et une dispute aurait alors éclaté avec le personnel hospitalier. Des personnes étrangères à l'affaire s'y seraient mêlées, ce qui a conduit à l'escalade verbale et au saccage du bâtiment. La responsable du centre de santé, Sœur Mireille Bakambamba, fait savoir que tout le matériel et le mobilier ont été emportés. Suivez ses explications au micro de Joël Bofengo.
Ils étaient là nombreux, les femmes, les filles, les garçons. Alors ils ont cassé des portes, ils ont cassé des fenêtres. Ils sont entrés de chambre par chambre, c'est-à-dire ça, des réceptions. Ils ont entré, ils ont déchiré tous les dossiers. Ils ont pris des tables, ils ont pris des chaises. Il y avait des poubelles, il y avait des dispositions, des lave-mains. Ils ont tout emporté dans ces salles-là. Ils ont entré dans la salle de pédiatrie. Ils ont pris tout des mousses, ils ont pris des petites tables, ils ont pris des dispositifs qui étaient là. Ils ont pris des matériels, des soins. Ils ont entré dans la salle d'opération. Ils ont emporté tout le matériel des salles d'opération. Ils ont entré dans les salles d'accouchement. Ils ont tout emporté. Et les malades, quand ils ont vu ça, ils sont sortis. Les femmes accouchées, les mousses de la maternité, tout c'est parti. Ils ont même pris le temps de monter même sur les tôles pour enlever les panneaux solaires. Ils ont enlevé, ils ont dérangé de l'installation des centres. C'est-à-dire au moment où nous parlons ici, on ne peut pas appeler encore sur les centres de santé parce que nous sommes vraiment à zéro. Il n'y a rien qui est resté.
Et dans le Kasaï oriental voisin, 5 maisons ont été incendiées dans la localité de Bakwamwanza, groupement de Bastangana, dans le territoire de Lupatapata. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi au dimanche. Les sources sur place parlent de rebondissement d'un conflit de pouvoir coutumier. L'administrateur du territoire rejette toutes ces allégations et met en garde les semeurs de troubles. Explication Esther Ndalafina.
Ces maisons ont été incendiées dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la parcelle du chef de cette localité, une payotte a été aussi incendiée par des personnes non autrement identifiées. Raison pour laquelle certains habitants de cette localité lient cet événement à un rebondissement d'un conflit de pouvoir coutumier. La même source affirme qu'il y a quelques mois, le ministre provincial de l'Intérieur, à travers la commission d'arbitrage de conflits, avait tranché pour la réhabilitation du chef de la localité en exercice. Le prétendant à ce pouvoir n'a jamais reconnu cette décision, précise quelques habitants. Contacté, l'administrateur du territoire de Loupatapata affirme que les enquêtes sont ouvertes pour identifier les semeurs de troubles. Crispin Biya.
Nous appelons tout le monde au calme. Celui qui a des prétentions d'introduire un recours auprès de la commission consultative des règlements de conflits coutumiers pour lier de faire des actes de vandalisme, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de mener des enquêtes. Nous appelons tout le monde au calme et à la cohabitation. Tout celui qui sera appréhendé sera traduit devant.
Signalons que quelques éléments de la police ont été déployés sur place pour parer à toute éventualité. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Retournons dans le Kasaï central et à Kananga, la Société congolaise pour l'état des droits affirme avoir collecté plus de 5 millions de francs congolais pour les obsèques des victimes de Tshisoukou. C'est son président qui livre cette information à Radio Okapi. Les corps d'une dizaine de ces victimes ont été gardés dans un hôpital de la place 2 ans après leur exhumation de l'auditorat militaire pour des raisons d'enquête. Les explications avec Blaise Ndongala.
Cette somme est collectée à l'issue d'une campagne organisée du 22 octobre au 5 novembre courant. Le président de cette structure assure que ces fonds sera remis à l'auditorat supérieur militaire de l'ex-Kasaï occidental et il servira aux funérailles et à l'inhumation de ses victimes ayant trouvé la mort en mai 2017 au village Tshisoukou. Maître Dominique Kambala indique avoir mené cette action pour honorer la mémoire de ses victimes. Nous estimons que la mémoire des morts mérite respect et la place des morts n'est pas à l'hôpital mais plutôt au cimetière. C'est aussi une façon pour nous de satisfaire les familles des victimes, a-t-il souligné. À l'occasion, maître Dominique Kambala a remercié toutes les personnes de bonne volonté ayant cotisé pour la cause. Il a par ailleurs ajouté que cette action de réinhumation des restes de ces victimes rentre dans les cadres des principes fondamentaux des droits de l'homme. Il faut par ailleurs signaler que l'auditorat supérieur militaire de l'ex-Kasaï occidental a salué cette initiative de la Société congolaise pour l'état des droits. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
La société civile Force Vive de la cité de Nyoki dans la province du Maïndombe revient sur le dossier réhabilitation du gouverneur Boutou Paul Boleilanga. Le gouverneur démissionnaire est réhabilité dans ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Pour le président de la société civile, le bilan du gouverneur est négatif, surtout à Nyoki, où il avait promis 21 millions de francs congolais pour réhabiliter l'hôpital général de référence. Les routes, les infrastructures scolaires et autres ne sont pas non plus en bon état. Il appelle Boutou Paul Boleilanga à changer sa façon de travailler, sinon sa réhabilitation ne servirait à rien. Eric Bovic Epembe, président de la société civile Force Vive de Nyoki, au micro de Irène Boma.
Nous avons suivi la réhabilitation du gouverneur Boutou Paul à la tête de province de Maïndombe. Mais la société civile Force Vive de Nyoki attend des choses. 1. Qu'il puisse répondre à la motion formulée par le député provincial. 2. Que le gouverneur mette au clair le but de sa démission. Parce que depuis que le gouverneur Boutou Paul avait pris le bâton de commandement de la province de Maïndombe, il n'y a rien qui n'a été réalisé selon sa promesse. À Nyoki, par exemple, il nous a parlé de 21 millions de francs congolais pour réhabiliter notre hôpital général. Mais allez-y voir comment fonctionne cet hôpital. Pas de médicaments, pas de matériel pour répondre à un hôpital général de référence. Aucune école construite ni réhabilitée, les érosions partout, pas de routes. Mais par nos sensibilisations, la population paye régulièrement les taxes. Nous attendons de gouverneur Boutou Paul un grand changement, sinon ça ne vaut même pas la peine de les réhabiliter.
Regain de l'insécurité à Mbandaka en province de l'Équateur à l'approche des festivités de fin de l'année. Le dernier cas en date remonte. Un moto-taximène a été abattu dans la nuit de dimanche à lundi par des inconnus qui ont réussi à ravir à la victime sa moto et toute la recette de la journée. Au cours d'une parade hier lundi au quartier Bassoko, le maire de la ville a invité les policiers à doubler de vigilance. Entre-temps, le commissaire provincial AI de la PNC Équateur a exhorté alerté ces éléments à privilégier la sécurité des personnes et de leurs biens.
La police abat un travail considérable, a reconnu le maire de Mbandaka. Toutefois, les plaintes de bavures policières se multiplient cet an dernier, a indiqué le maire de la ville, lesquelles le bavure crée l'inquiétude de la population en cette période de fin d'année et la pousse à développer une méfiance à l'égard des policiers censés la sécuriser avec ses biens. Le maire Didier Dada a révélé que les dispositions sécuritaires ont été prises par la province et elles resteront de stricte application jusqu'à la fin de l'année. Il a recommandé l'unité des policiers, mais aussi leur soumission aux autorités hiérarchiques, ainsi que le respect de la population. Rappelant leur rôle en ce moment crucial de fin d'année, le commissaire provincial intérimaire de la PNC Équateur a du coup mis ces éléments en alerte. En tant que police civile, a ajouté le colonel Guilain Sambois, il faut la complicité et la courtoisie avec la population. C'est pourquoi il a instruit ces éléments à la traque sans merci de tous les voleurs. Il a mis en garde les commandants d'unité contre l'ingérence politique et les détachements illicites des policiers. À la population, il a communiqué une vingtaine de numéros de la police pour faciliter des interventions rapides. Mbandaka, Paul Chamalingue, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'international, nous allons à présent parler de la Libye où les représentants libyens de tous bords ont débuté hier lundi des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de Nations Unies, relançant ainsi l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, s'est dite optimiste, évoquant une lueur d'espoir. En ouverture, le président tunisien Kais Saied a appelé à saisir ce rendez-vous avec l'histoire.
L'invité.
L'invité de Radio Capi ce matin est le major Harry Moudi Gambo, chargé de l'information publique de la force d'intervention de la MONUSCO. Il revient sur les récentes attaques de ZDF dans le territoire de Beni, mais aussi il parle de ce que fait la MONUSCO pour protéger les populations civiles dans la zone. Écoutons-le dans cet entretien téléphonique avec Sadiki Aboubakar.
Major Harry Moudi, bonjour.
Bonjour.
Récemment, le week-end passé, il y a eu des attaques des ADF à Kissima. Comment vous prenez cette situation?
Par rapport à l'attaque de Kissima, d'abord, nous déplorons cette attaque et nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées. Donc, aussitôt informées après l'attaque, nos troupes se sont déployées sur les lieux avec les FRDC. Et au moment où nos troupes étaient arrivées sur les lieux, déjà les assaillants avaient quitté. Donc, il fallait constater ce qui s'est passé et très rapidement procéder à des patrouilles cherches autour et aux alentours. Donc, cela a consisté d'abord pour la journée du dimanche à faire des patrouilles tout autour de la localité en vue d'empêcher les assaillants de traverser la région du sud vers Rulungupa et faire d'autres victimes. Donc, des patrouilles de sécurisation, de protection des civils ont continué donc à la nuit. Et même la nuit, il y a une autre patrouille donc qui a continué à sillonner les environs. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons envoyé des drones de reconnaissance sur les lieux afin de chercher toute présence des assaillants. Et une fois que nous aurons les résultats de ces recherches, nous allons les partager avec les FRDC afin que des mesures adéquates puissent être aussitôt engagées à leur endroit.
Nos majors, on voit qu'il y a une résurgence de l'activisme de l'ADF, pas plus que hier aussi, il y a eu attaque à Matadi, vers Mamouvé, Tchani Tchani, Samboko. Comment vous expliquez cette résurgence de l'activisme de l'ADF dans cette région?
La région en tant que telle, étant donné la végétation et autres, est favorable aux infiltrations. Ne prendre que le cas, par exemple, du mois passé, le mois d'octobre, nous avons eu 51 alertes. Donc les alertes, c'est-à-dire chaque fois que c'est des informations qu'on reçoit d'une probabilité d'attaque sur une localité. Et on a répondu pratiquement à toutes ces 51 alertes en envoyant des patrouilles sionner les lieux indiqués. Cela a certainement permis d'atténuer le nombre d'attaques parce que avec la présence des troupes sur place, ça dissuade et ça empêche toute attaque. Bon, malheureusement, on ne peut pas aussi être partout et en même temps. Donc, comment faire? C'est de multiplier les patrouilles. Je vous disais tantôt que la zone avec la végétation, elle est vraiment favorable aux infiltrations. Tout de même, avec les patrouilles que nous on fait quotidiennement et qu'on est en train de renforcer en fonction de la menace et aussi exécutée par les FSDC, on est en train de voir comment et améliorer, essayer au mieux de contrecarrer ces infiltrations qui sont le plus souvent nocturnes.
Peut-être un mot à dire à la population de Béni qui n'attend que la paix.
À l'endroit de la population, nous leur demandons de collaborer, de ne pas hésiter à collaborer, de partager toute information. La MONUSCO, ici en tout cas la force, nous restons engagés à assurer la protection des populations conformément au mandat et en vigueur. Et aucune information, quelle qu'elle soit, par rapport à la présence, une présence suspecte, ne sera négligée. Nous n'allons ménager aucun effort pour procéder à la protection des populations telles qu'indiquées par notre mission. Et aussi, pour aller un peu plus en large, nous replaçons nos éléments, nos bases, en mesure de couvrir toute la zone. Et dans ce sens que cette semaine, on vient de finir la construction d'une base à Kilia et on va directement procéder à la construction d'une autre à Mutuanga. Donc on va déployer une force sur les lieux pour permettre la construction de cette base, c'est des bases renforcées, assez renforcées, qu'on va passer à l'issue au FRDC pour leur permettre eux aussi d'avoir des bases avancées permettant de couvrir toutes les zones. Donc l'idée c'est qu'à la fin qu'on puisse avoir un maillage de la zone à risque, c'est cela. Donc que la population soit rassurée, il n'est pas facile vu la résurgence des attaques, mais il faudrait qu'on puisse avancer ensemble. Et comment le faire, c'est de partager, d'hésiter, de ne pas hésiter à partager quelle que soit l'information. Et cela nous permettra en fait d'être plus préventif. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas être le réactif, mais être le préventif. Et il n'y a que les renseignements reçus à temps qui nous permettront de bien vous y prendre.
Major Harry Modi Gambo, merci.
Merci.
Major Harry Modi Gambo, porte-parole des forces d'intervention de la MONUSCO, invité de ce journal, répondait aux questions de Sekombi Katondole. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité à Radio Okapi.